Je voudrais raconter une petite histoire, enfin, qui n'est pas une histoire, puisque c'est la vérité. Enfin, bon. Quand on a discuté des terrains, des achats des terrains, tout ça, il y a Christian Saorine qui a eu cette pensée. Il l'a partagée. Il avait dit toute terre, il reprenait le passage dans Exode, enfin dans l'Ancien Testament, toute terre que tu fouleras t'appartiendra. Donc c'était génial. Bon, pas plus. Puis moi, ça m'a travaillé quand même. Puis je me suis dit. Et un matin, un dimanche matin, je suis venu ici un peu plus tôt et je suis parti vers ces terrains. Et puis Antoine m'a vu, il m'a dit où tu vas? J'ai dit, bon, je vais là à côté, là. Donc, il m'a dit, je viens avec toi. Et on a marché dans les terrains, on a prié, tout ça. Pas plus. Des fois, il faut faire des choses un peu qu'on ressent, en tout cas. Et le lendemain, le lundi, Monsieur Greffeuil, le propriétaire du terrain du milieu, m'appelle. On peut dire coïncidence, mais bon, c'est bien. Et on continue. Et mercredi soir, à la Bible sous les étoiles, pareil, à la fin, je leur dis, si ça vous dit, à ceux qui étaient là, on n'était pas 200, hein, on était 10-12, si ça vous dit, on y va, on fait le tour, je leur explique. Voilà, on a chanté les psaumes, tout ça, tac, 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 on a prié, tout ça. Et le jeudi, le propriétaire du terrain là et du premier m'ont appelé. Voilà. Donc, voilà. Après, vous ferez ce que vous voulez, mais en tout cas, je trouvais ça sympa. Norbert m'a dit, donne des nouvelles de ta santé. Donc oui, j'ai fait un infarctus, pour ceux qui ne le sauraient pas, le 21 septembre, c'est une belle date. Le Seigneur n'a pas voulu de moi. Trop pénible, ouais, trop pénible. Trop tôt, il va mettre la panique. Et voilà. En tout cas, heureusement qu'il y a ma femme quand même. Parce qu'elle, elle a dit, bon, on appelle les pompiers, alors que moi, j'y ai dit, non, mais ça va, c'est rien. Je peux attendre. Voilà. Des fois, les femmes. Ça a du bon sens, hein? Pour ça, on se complète. Nous, on est un peu, hein? Moi, presque, j'y ai dit, mais attends, on ne va pas déranger les pompiers, ça va. Alors que c'est un peu leur fonction. Mais bon. Bon, allez, on y va. Donc ce matin, on continue dans les Actes, et là, on va être au chapitre 8. Alors, je ne vais pas tout le lire, parce que c'est long, et puis je suis fatigué, donc voilà. Mais déjà, lisez-le un petit peu, et je vais revenir sur des passages. Mais ce que je voudrais déjà vous dire, c'est qu'on ne le réalise pas, mais le livre des Actes, d'abord, ben, c'est narratif, hein, ça raconte une histoire, mais comme son nom l'indique, c'est des actes. C'est des actions, c'est l'effet des choses que les premiers chrétiens ont vécues. Hein? Ça parle du déploiement de l'Église, ça parle de la fidélité des personnes à la parole, ça parle de que des gens sont partis jusqu'aux extrémités de la terre. Tout ça était en obéissance. Pour moi, c'est le livre de l'exemple pour chacun comme chrétien. Voilà. Donc, quand vous voulez un exemple, vous allez dans le livre des Actes. Et puis, j'ai lu un livre où il dit, le gars, c'est le livre de la dynamique. Les actes, c'est la dynamique. La dynamite aussi, mais c'est vraiment la dynamique. Et c'est quelque chose qui habite l'Église depuis 2000 ans. Alors, des moments plus ou moins, mais c'est ça qui est le fil, cette dynamique. Voilà. Donc, c'est un enseignement pour nos vies. Victor Hugo a écrit, c'est bien Victor Hugo, on peut résister à l'invasion d'une armée, mais pas à celle d'une idée dont le temps est venu. Et l'évangile, c'est plus qu'une idée, évidemment. Mais son temps était venu. C'était ça, l'idée. L'évangile, bien sûr, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vous invente rien, hein. C'est la dynamite utilisée par Dieu pour briser l'entendement. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc, son temps était venu. L'Église commence à se déployer. Suite au début des persécutions, dimanche dernier, Norbert nous a parlé de Étienne, de sa lapidation. Il nous a épargné les détails. On a apprécié, parce que c'est pas très beau tout ça. Mais les gens vont commencer à partir par obéissance à la parole de Dieu et puis parce qu'il y a les persécutions. Il y a un peu des deux. Et c'est ce qu'on va voir. Le sel a quitté Jérusalem. Et il est parti en Samarie et il a continué. Hein? Alors, ce matin, dans ce chapitre 8, ça parle de quatre personnes, et chaque personne dont elle parle représente un petit peu un caractère, un type d'homme, qu'on peut peut-être pas être tour à tour, n'exagérons pas, mais nous parle de quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, le premier, Saul. Saul, il avait, on le surnommait dans Acte 8, le persécuteur zélé, on va l'appeler comme ça. Hein ? Comme Norbert l'a dit la semaine dernière, il garde les habits pendant qu'on lapide Étienne. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, la semaine dernière, j'ai appris un truc que je ne savais pas. C'est que c'est certainement lui qui était un de ceux qui a ordonné cette lapidation, parce qu'on voit qu'il y a la synagogue de Cilicie, il est de Cilicie. Donc, je ne savais pas. Enfin, chaque fois, on dit « il garde les habits », et en même temps, la parole de Dieu, quand elle dit un truc comme ça, c'est tellement banal que forcément, il y a quelque chose derrière, parce qu'il garde les habits, honnêtement. Enfin, on s'en moque, quoi, qu'il garde les habits. Là, non. Et puis, il ne garde pas les habits parce qu'à l'époque, il y avait des vols. Je ne crois pas, et encore qu'on ne sait pas. Mais non, c'était le chef, c'était un des chefs. Donc, c'était un pharisien. Et même en Galate, il dit de lui que c'était, pour la loi, c'était un homme irréprochable. Un homme irréprochable. C'était un jeune, c'était un prometteur, il était très bien enseigné par Gamaliel, c'est le plus grand rabbin à l'époque. Hein. Et lui, persécuter les chrétiens, bah, c'était faire la volonté de Dieu. Clairement, hein, clairement. Et il s'y consacrait de manière la conscience tranquille. Hein. Il n'avait aucun doute. Hein. Il est dit au verset 2 que Saul... 3. Ravager l'Église. Ravager l'Église. C'est pas rien. Hein. C'est pas... il ravageait l'Église. Le mot là, c'est, ça évoque un animal sauvage quand il charcute sa proie. Ça fait froid dans le dos, hein. Il persécutait à mort les hommes, les femmes, les enfants. C'est sûr que vous veniez de vous convertir, quand vous rencontriez Saul, vous ne deviez pas passer un bon quart d'heure. Hein. Et bon, ben, il obéissait en vertu de la lumière qu'il avait reçue. Et souvent dans nos vies, ben, on obéit en vertu de ce qu'on a reçu, de ce qu'on croit. Et puis, c'est marrant parce que le Seigneur, sur le chemin de Damas, il l'a rendu, il l'a éclairé en le rendant aveugle. C'est pas mal quand même, hein. Symboliquement, je trouve ça, hein, c'est pas mal. Belle image. Et là aussi, sans douter, il est devenu chrétien. On peut dire qu'il a des défauts, mais c'est un homme entier. Il ne doute pas, lui. Quand il croit, il croit. Quand il faut, il faut, il y va. Donc, voilà. Saul de Tarse, c'est la dernière personne à Jérusalem que les hommes, nous les hommes, on aurait choisi pour prêcher l'évangile. Franchement. Vraiment, il faut qu'on le réalise. Et donc, moi, en préparant ce message, ce que j'ai réalisé, la plus belle leçon à retenir, elle ne vient pas de Saul. Elle vient des chrétiens. Mais comment ils ont pu l'accueillir ? Comment ils ont pu lui faire confiance ? Pour moi, ça, c'est la plus belle leçon, quoi, à retenir de l'amour de ces nouveaux chrétiens pour l'accepter. Et en plus, pour en faire un chef. C'est quand même pas rien, quoi. Hein. C'est un miracle pour moi. Vraiment un vrai miracle. Ça, c'est un miracle de pardon, de compassion. Hein. À vue humaine, imaginez l'impact que ça a dû avoir chez les autres humains. Chez les autres à Jérusalem ou partout où il allait. Ils ont dû se dire, non mais attends, ils sont fous ces types. Ils accueillent ce tueur, c'est un assassin. Et en plus, il n'avait qu'une haine, c'était juste contre les chrétiens. Mais non, il l'a accueilli. Voilà. Donc, belle grâce, et puis ça nous parle pour chacun de nous. Et pour ça, en même temps... Paul, ce n'est pas étonnant qu'ils disent qu'il est le plus petit des apôtres. Parce que quand même, je pense que ça ne devait pas être évident pour lui. Au début, là, c'est un peu la honte quand même. Mais par contre, paradoxalement aussi, quand il s'agit de défendre l'évangile, là, il oublie tout. Pareil, quand il reprend l'apôtre Pierre, c'était le copain de Jésus, quoi. Ben, lui, il n'hésite pas, il lui dit « tu te trompes, Pierre, devant tout le monde ». Sacré bonhomme. Hein. Et dire que c'est lui qui est l'apôtre de la grâce en plus. Vraiment, Dieu fait des choses excellentes. Hein, hein. Voilà. Donc, c'est un bel encouragement pour chacun. Vous savez, des fois, on se sent sale, des fois, on se sent petit, des fois, on se sent raté, des fois, on se sent coupable, hypocrite, menteur. On se sent tout ça tour à tour. Enfin, peut-être pas vous, mais moi, en tout cas. Et puis, eh ben, on se dit, ben, on peut crier à Christ. On peut, parce qu'on est justifié. On peut lui demander pardon. On peut rebondir. C'est incroyable. C'est ça, l'évangile. Voilà. On a le droit d'annoncer l'évangile, quoi qu'on ait fait. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. On a le droit d'annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'on est le sel et la lumière du monde. C'est notre droit, et c'est un droit que Dieu nous donne. Ce n'est pas un droit qu'on s'est acquis, il nous l'a donné. Donc, ne nous sentons jamais un raté pour annoncer l'évangile. Ça n'existe pas. Parce que c'est fondé en Christ, ce n'est pas fondé sur nous. Et heureusement. Et heureusement. Puis, le deuxième personnage, c'est Philippe. Alors, on peut continuer. Alors lui, Philippe, c'est le prédicateur fidèle. On va l'appeler comme ça. Voilà. On est dans la persécution, comme je disais tout à l'heure. Et elle a le même effet, en fait, que le vent. Le vent sur les semences. Elle disperse la semence. Hein. Elle la disperse. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire une récolte encore plus abondante. Hein. Ce terme, il parle de ça. Le mot traduit par disperser, c'est épandre des semences. Vous voyez, donc c'est fort, là aussi. Voilà. En annonçant la bonne nouvelle, voilà, ceux qui avaient été dispersés, c'est ça, merci. Voilà, c'est épandre, répandre la semence. Donc, vous voyez, là aussi, il y a un vrai but du Seigneur. Ce n'est pas juste par peur, ce serait faire injure à ces premiers chrétiens. Non, ils sont partis pour répandre la bonne nouvelle. Voilà. Et donc, les chrétiens de Jérusalem, c'était la semence de Dieu. Et Dieu s'est servi, entre autres, de la persécution pour aller planter cette semence ailleurs. Voilà. Alors, Philippe, on le voit, il a été nommé comme diacre, comme Étienne, hein, entre autres. Et il va se rendre où ? En Samarie. Bon, on n'a pas le temps, hein, il faudrait refaire toute l'histoire. La Samarie, grosso modo, vite fait, c'était... Quand les Assyriens ont mis en exode les 10 tribus d'Israël, ils ont mis des Assyriens, des païens dans ce territoire. Ensuite, ceux qui étaient en Assyrie, qui sont revenus, ils étaient devenus, il y avait eu des mélanges, on va dire, des métissages, et ils sont revenus dans leur territoire. Et ce territoire s'est appelé la Samarie. Et donc, c'était les frères ennemis des Juifs à cette époque. Voilà. Mais pourtant, on voit que Jésus-Christ, le Seigneur, il est allé, pour rappeler, Jésus est la Samaritaine, hein, celui qui boira cette eau n'aura plus jamais soif. Donc, il a annoncé l'évangile. Mais ce qu'il y a de marrant, enfin, des fois, il y a des trucs qui nous font rire, ils ne sont pas drôles, mais... c'est que Jésus, aux apôtres, vous savez, quand il va les envoyer dans l'évangile, il va leur dire, n'allez pas en Samarie. Le temps n'était pas venu, certainement. Et maintenant, c'est un autre temps. Il faut aller en Samarie, puisque Jésus l'a dit. Vous annoncerez à Jérusalem, en Samarie, etc., aux extrémités, en Judée, en Samarie. Donc maintenant, c'est le temps d'y aller. Alors Philippe, eh bien, il y va, il prêche l'évangile, et il est dit, et on le voit, l'accueil est très bon. Et c'est très important ce qui est dit là. Il est dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Elles étaient attentives à ce que Philippe disait. Et ensuite, il accomplit des signes et des miracles. Des fois, on peut inverser. Et je voudrais juste rappeler cela. La priorité est accordée à la parole de Dieu. Là, dans le contexte. On écoutait cette parole. Et ensuite, il manifestait les miracles. Hein ? C'est vrai, on rêverait de guérir les gens comme ça, à un clin d'œil. Mais ils croiront à la parole, pas au signe. C'est Jésus qui le dit. Jésus, il le dit, il dit, malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Donc, maintenant, le signe, le miracle, va venir attester la puissance de Dieu. Je ne dis pas ça. Mais C'est parce que la parole a été écoutée que les cœurs ont été transformés. C'est important de le dire. Hein. Seule la parole reçue dans une bonne terre amène à la conversion. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben, ça marche super bien, puisque la ville, après... Bon, ben, en fait, c'est pas grave. La ville était dans une grande joie. Une grande joie. Voilà. Donc, il y avait vraiment un impact. L'évangile est annoncé, la parole est écoutée, il y a des miracles. Voilà. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Une grande joie dans cette ville. Voilà. Voilà un bon fruit de l'évangile annoncé. La joie. La joie. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Luc aussi, dans les Actes, il souligne souvent cette grande joie. Quand même. C'est pas un livre triste, les Actes. C'est le pied, quoi. C'est la fête. C'est la joie. C'est la joie. Hein. Et là, en Samarie, y a un miracle. L'évangile est annoncé, et puis c'est comme un pont qui va relier le peuple juif et les Samaritains, sur la base de l'évangile. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, à Nîmes, on est chacun des porteurs de cette bonne nouvelle, de cet évangile. Chacun. On est des Philippe. Et la question est, qu'est-ce qu'on en fait ? Hein ? Est-ce qu'on l'a converti en actes ? Pas les actes, mais des actes, nos actes. N'importe où on se trouve, ou pas ? C'est une vraie question. Et puis des fois, quand on se pose cette question, pensons à Philippe. Il y va, il prêche, et voilà. Après, il y a un autre personnage, c'est Simon. Simon le magicien. C'est son nom. Hein. Alors lui, pareil, il y a un principe dans les Écritures, c'est que chaque fois que Dieu fait quelque chose, le diable, notre ennemi, Satan, appelé comme vous voulez, c'est un imitateur, donc il envoie des gens pour semer le doute. Il fait des contrefaçons. Donc là, c'est Simon, c'est un homme, et il est dit que la foule admire Simon, hein, mais qui se donnant pour un personnage important. Bon, il se croit plus que ce qu'il est, apparemment. Hein. Voilà. Mais quand même, les gens l'écoutent. Les gens l'écoutent. Et là, ce Simon, donc, il fait des prodiges, etc. Et puis, il a une certaine puissance face aux gens. Mais quand Philippe arrive et qu'il prêche l'évangile, son étoile tombe, quoi. Apparemment, il a moins de succès. Hein. Vas-y, continue. Il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous l'écoutaient attentivement. Et même, ils pensaient que c'est la puissance de Dieu. Voilà. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, et qui se firent baptiser, continue. Voilà, Simon, il a moins de succès. Mais il y a un verset, il est vachement intriguant. Simon le magicien... Simon, lui-même, crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait des prodiges qui s'opéraient. Voilà. Simon crut. Quand on voit la suite, c'est étrange. Et peut-être que la meilleure façon d'interpréter ce passage, ce verset, la meilleure question, c'est... Sur quoi reposer sa foi à Simon ? C'est plutôt ça. Je crois que c'est par cette question qu'on peut répondre à ce qui est étonnant. En tout cas, elle n'avait pas pour objet la parole de Dieu. La foi de Simon, c'était les miracles accomplis par Philippe. On le voit, c'est écrit. C'est écrit clairement. Hein. Lui et les apôtres, Pierre et Jean, vont venir en Samarie. Et qu'est-ce qu'il va faire Simon ? Il va dire, prie. Priez pour moi, que je reçoive, c'est parce qu'il va prier pour les gens, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et lui, il va dire, priez pour moi, moi je veux cette puissance, je vous donne de l'argent. Bon, dans les actes, si on se rappelle, Saphira et Ananias, c'est pas très à la mode l'argent, hein, pour avoir un truc de Dieu. Il a pris des risques, Simon, quand même. Hein. Il aurait pu... Bon, parce que Pierre le reprend. Pierre lui dit, mais c'est pas de l'argent. On n'achète rien avec ça. Hein. Voilà. Il leur dit, donnez-moi ce pouvoir afin que à ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Et là, on voit le cœur de Simon, tout simplement. Son cœur, il est simple. Hein. Il veut un pouvoir. Et là, Pierre va lui rappeler quoi ? Que le don de Dieu, ce n'est pas une affaire d'argent. Hein ? Et il va lui dire, ton cœur n'est pas droit. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal et demande au Seigneur de te pardonner. C'est très intéressant. Quelle est la réaction de Simon face à ces paroles ? Ou non ? Quelle aurait été votre réaction par rapport à ces paroles ? Si par exemple, Marc Vidal, je lui dis... Je le cite, hein. C'est un ami, il ne va pas mal le prendre. Ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Bon, c'est pas cool, mais ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Et bien, la réaction de Marc, elle sera la chose suivante. Comme chacun de nous qui est né de nouveau, on priera le Seigneur. Et on lui demandera pardon. Et Dieu nous restaurera. On pourra demander à des amis, bah, tiens, remettez-moi un peu. Marc, il me dira, tiens, tu veux prier pour moi en plus ? Histoire d'eux. Mais ce sera ça la réaction. La réaction de Simon, c'est, il dit à Pierre et Jean, priez pour moi, afin que Dieu ne me fasse pas ce que vous m'avez dit. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Et moi, je crois que c'est là que se fait la nuance. Hein ? Le gars, il ne prie pas le Seigneur lui-même. Et moi, je crois que quand on est de nouveau, on sait que notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu à nous. Hein ? Voilà. Et cette histoire de Simon, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre qu'une personne, elle peut s'approcher très très près du salut sans se convertir, tout simplement. Simon, il a entendu l'évangile, il a vu les miracles, il a fait profession de foi, il s'est fait baptiser, pourtant, il n'est pas né de nouveau. Et comment ? Parce qu'il ne voulait pas se repentir. Parce qu'en fait, toute notre vie chrétienne, c'est notre quotidien. On pêche, on demande pardon à Dieu. Et Jésus nous dit qu'il est juste et fidèle pour vous pardonner. Et ça, on le sait. Quand on devient chrétien, ça, on le sait. On sait qu'on va vivre des choses super. On sait qu'il y a des choses, ça ne va pas marcher. On sait qu'on va foirer des choses. Mais par contre, il y a un truc dont on ne doute pas. Et parfois, on peut en douter, mais on a toujours un frère qui va nous encourager. C'est de demander pardon, de se repentir devant Dieu. C'est fondamental. Hein ? Voilà. Et c'est très important, cette histoire de Simon dans ce sens-là. Hein ? Parce que Simon, ce qu'il voulait, vous savez ce que c'est ? C'est dit. Il voulait le pouvoir que ça donne. Il voulait le pouvoir. Vous imaginez, vous arrivez, vous priez pour quelqu'un, il est guéri, ça donne un pouvoir. Ça donne un pouvoir. Mais ça, ce n'est pas un fruit de Dieu dans ce contexte. Donc voilà, c'est important. Ensuite, le quatrième personnage... Vous voyez, c'est l'Éthiopien. Voilà, c'est l'eunuque. Et là, de nouveau, on retrouve Philippe. Philippe, ce n'est pas qu'un prédicateur fidèle. C'est vraiment un ouvrier obéissant. Juste avant, il est dit, un ange parla à Philippe, verset 26, voilà. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. Donc, un ange lui dit, lève-toi. Ben, Philippe, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève. Jusque-là, ça va. Et il part dans la direction que l'ange lui indique. Et il rencontre cet homme. En même temps, quand un ange vous dit de faire quelque chose... Bon, a priori, vous obéissez, hein, a priori. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Hein, mais bon, si quelqu'un, ça lui est arrivé, je pense qu'il va nous le confirmer. Si un ange te dit de faire quelque chose, tu le fais. C'est clair. Donc, et en même temps, c'est toujours intriguant. Pourquoi l'ange va voir Philippe et lui dit d'aller là plutôt que d'y aller lui-même directement ? Pourquoi ? Vous êtes posé cette question ? Bon, il y en a qui ont dû se la poser. Eh bien, parce que les anges, je vais vous dire pourquoi. Parce que les anges, ils seraient mauvais pour annoncer l'évangile. Vous savez pourquoi ils seraient mauvais ? Parce qu'ils sont sans péché. Eux, la grâce de Dieu, ils n'y comprennent rien. Nous, on est bons sur la grâce de Dieu. Ils n'ont pas péché. Donc, ils seraient des très, très mauvais porteurs de l'évangile. Très, 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 très mauvais. Hein, parce qu'ils ne l'ont jamais expérimenté personnellement. Et on a besoin d'expérimenter la grâce de Dieu pour la communiquer aux autres. C'est vraiment clair. Donc, ils ne peuvent pas rendre témoignage du salut. Ils ne peuvent pas donner un sens à ce salut. Ils l'ignorent. Ils l'ignorent. Donc, Dieu nous a chargés de cela. C'est notre mission. Hein. Et là, cette histoire de Philippe, là aussi, elle devrait nous encourager dans notre témoignage pour le Seigneur. Hein. Pour commencer, Dieu a dirigé Philippe vers la bonne personne au bon moment. Hein. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des anges, c'est vrai, pour nous diriger. Mais, on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit, lui, il nous guide. Hein. Hein. On a le Saint-Esprit, il nous rend sensibles aux besoins de l'autre. C'est clair. Hein. Alors, certains se disent ici, là, ce matin, ben, pas moi. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'arrive jamais, moi, de me dire, tiens, je vais commencer à prier. C'est un encouragement, commencer à prier. Commencer à prier comme cela, par exemple, demain, ce soir, vous dites, ben, Seigneur, rends-moi sensible dans ma journée à une rencontre, à une situation où j'aurai une parole de connaissance, à une situation où j'aurai une parole d'encouragement, de réconfort, envers une personne que je connais, envers une personne que je ne connais pas. Pareil, commencez par prier comme cela et revenez dans une semaine et vous me raconterez. Vous verrez, ça marche à tous les coups. Si on prie comme ça, mais Dieu, parce que ça nous rend sensibles, on voit les gens. On voit les gens, on se retrouve dans des situations, on ne les voit pas possibles et on a l'Esprit de Dieu en nous et cet Esprit amène la paix, amène la joie. Il faut pas, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Mais mettons-nous en condition de, tout simplement. Et Dieu va le faire. Hein. Dieu va le faire. La dynamique, les actes, c'est une dynamique. Pensez à ça. Hein. Donc, je continue. Alors, cet homme, cet Éthiopien, c'était important pour lui la vie spirituelle. Il était eunuque, donc il ne pouvait pas devenir juif au vrai sens du terme. Mais il fait quand même 300 km pour aller à Jérusalem. Quand même. Donc, pour lui, c'était quand même très important. Hein. Cet homme, cet Éthiopien, ben pareil, comme chacun, il représente beaucoup de gens aujourd'hui. Des gens qui lisent la parole, qui cherchent la vérité. Il y a plein de gens qui cherchent la vérité, mais ils n'ont pas encore la foi du salut en Christ. Parce qu'ils attendent. Ils attendent que chacun de nous, ben, peut-être, voilà, une explication. Tiens, moi, je ne comprends rien à ça. Voilà. Et puis, eh ben, nous, on va leur expliquer. Et comme ils sont ouverts, comme c'est le bon moment, eh ben, ils vont donner leur vie au Seigneur. Voilà. Ils nous attendent, ces Éthiopiens. Hein ? Voilà. Et alors, donc, et ces gens-là, oui, ils sont sincères. Voilà. Ils sont sincères. Ils ne sont pas comme Simon. Ils ne sont pas comme Simon le magicien. Parce que lui, en fait, c'était ça. Il n'avait pas de sincérité. Mais ils sont perdus, comme Simon le magicien, par contre. Hein. Et ils ont besoin qu'on montre un chemin, le chemin, tout simplement. Alors, Philippe s'approche du char et il lit, et l'homme est en train de lire Ésaïe 53. Vous connaissez tous Ésaïe 53. Hein. Le Seigneur a bien préparé son cœur à ce personnage, parce que c'est vraiment le passage de l'évangile, quoi, de Christ. Hein, de ce qui, hein, on l'a amené... Voilà, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Et lui, il dit, mais de qui ça parle ? Entre parenthèses, imaginez, vous auriez cette question. Il ne faut pas être un théologien. Hein, parce que l'Éthiopien, sa question, elle est simple. Mais de qui ça parle ? Voilà. Voilà. Eh bien, de Jésus-Christ. Ah bon ? Mais pourquoi ? Très facile à expliquer. N'importe qui peut l'expliquer. N'importe quel chrétien peut l'expliquer. Et puis si vous pensez que vous ne pouvez pas l'expliquer, le Seigneur vous donnera les paroles. C'est sûr et certain. Hein, c'est sûr et certain. Voilà. On est appelé à expliquer. Et j'ai écrit, n'ayez pas peur, le Seigneur mettra les paroles. Mais je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, on avait fait une réunion maison à Montpellier. Moi, je ne savais rien. Et les gens me posaient des questions, je me rappelle, je répondais. Hein. Les gens se convertissaient, mais j'ai dû en dire. Mais Dieu est Dieu. Et lui, il en a fait de bonnes choses. Donc des fois, n'attendons pas. Bon, c'est bien de connaître un minimum quand même. Ne hein. me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Hein. Oh non, moi je la lis plus, pas la peine, ça ne sert à rien. Dieu va m'inspirer. Il y a un peu les deux, quoi. Hein. Il y a un peu les deux, voilà. Hein. Voilà. Donc suite à cette explication, cet homme va donner son cœur, il va donner sa vie au Seigneur. Formidable. Hein. Formidable. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il lui a expliqué la parole de Dieu, cet homme a donné son cœur. C'est un fondement. Hein. Et c'était tellement concret qu'il a voulu être baptisé. Alors, il y avait une flaque, chaque fois on dit ça, mais bon, peut-être, hein. Peut-être qu'il y avait un petit lac, peu importe. En tout cas, il s'est fait baptiser. Et puis, voilà, la mission de Philippe, elle est terminée. C'est intéressant, là aussi, on aurait pu imaginer dans notre... Mais tiens, il ne l'accompagne pas, il ne lui explique pas, il ne le forme pas. Non, non, non. Dieu s'en chargera, il y aura d'autres hommes. C'est ça, l'Église. Un fait ça, un autre fait. Hein, un sème, l'autre arrose, etc. Donc, ça ne pose aucun problème. Voilà. Et là, il est dit, l'Esprit du Seigneur, tu peux continuer ? Voilà. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Bon, il parle avec quelqu'un quand même, je vous mets le contexte. Le gars disparaît. Lui, apparemment, ça ne pose aucun problème, il est joyeux. Bon, je ne suis pas sûr, moi. J'aurais vécu ça, mais bon. Mais alors, un truc marrant, moi, c'est des trucs, des fois, ça me... il y a un truc super marrant. Regardez. Voilà. Tandis que, voilà, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes. Moi, je trouve ça hyper marrant. Dieu le téléporte, on va dire, de 30 km. Et là, il marche à pied 10 km. Pourquoi il n'a pas mis directement... C'est un mystère. Enfin bon, c'est pas un mystère passionnant, mais c'est bizarre. Philippe, le reste, il le fait à pied. Pourquoi ? Peu cher. Je sais pas. Voilà. Donc voilà. Et on le retrouve à Césarée en Actes. Donc on voit qu'il continue son ministère. Donc Philippe, c'est vraiment un évangéliste et c'est vraiment quelqu'un qui avait un important ministère. Hein. Voilà. La vie de ces hommes, maintenant, pas en conclusion, mais elle représente un peu ceci. Saul, je ne l'appelle pas Paul exprès, hein, c'est le juif zélé sauvé par grâce. Lui, il représente notre pire ennemi. Hein. Ces gens-là, ils sont contre les chrétiens, ils sont contre les églises. Mais là, dans ce contexte, il est aussi là pour nous dire que tout homme peut entendre la bonne nouvelle. Une fois, Norbert, il avait parlé du livre de Pardonne-moi, Natacha. Ben, c'est exactement ça. Hein, vous savez, c'était un tortionnaire qui s'est converti parce qu'il voyait cette jeune fille venir à toutes les réunions, se faire massacrer et la fois d'après, revenir. Et cette manière de revenir, ça l'a convaincu qu'il y avait vraiment quelque chose. C'était son pire ennemi, mais tous nos pires ennemis peuvent se convertir. Donc ça, vraiment, il faut s'en souvenir et jamais oublier ça quand on regarde un homme qu'on n'aime pas trop. Hein, voilà. Qu'on n'aime pas trop ou qu'on n'aime pas du tout. Quoi. Simon, lui, il veut payer pour avoir du pouvoir. Il veut payer pour avoir de la puissance. Ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Rien d'acquis. Tout est à Dieu. Rien à nous. Dieu est notre boss et il nous accompagne. Hein. Et donc, il ne veut pas se repentir, cet homme, Simon, et il ne veut pas se convertir. Pourtant, il était moins dur que Saul. Mais non, il ne veut pas, lui. Lui, il veut s'arranger. Alors, comme chrétien, ben, on n'est pas meilleur que Simon, parfois. Hein. Mais on a un pouvoir qui ne s'achète pas. Je vous l'ai dit au début. Ce pouvoir, il nous donne ou il nous redonne la joie. Hein. Ce pouvoir, c'est la repentance. En tout temps, quand on a manqué le but, quand on a péché, on peut demander pardon. Et nous savons que le Seigneur nous pardonnera. Quelle joie, quel repos. Hein ? Et puis Philippe, eh ben, c'est l'évangéliste fidèle, obéissant. C'est un modèle à suivre. Toujours actif pour le Seigneur. Bon, il est téléporté aussi. Bon, ça, nous, on doit conduire nos voitures. Bon, c'est pas pareil. Et puis l'Éthiopien, ben, c'est ces hommes et ces femmes qui ont faim du Seigneur, qu'on croise partout. Supermarché, dans une association, n'importe où. Ou Gérard, quand il va aux boîtes aux lettres, là, ben, il les rencontre. Voilà. Partout. C'est ces hommes et ces femmes. Et le Seigneur, il nous a donné les clés du royaume, dans un sens. Et eux, ils attendent qu'on leur donne des clés, qu'on leur explique. Et le Seigneur, à chacun de nous, qu'est-ce qu'il dit ? Qui enverrai-je ? Comme il a dit à Ésaïe, Ézéchiel, bon, je ne sais plus. Ésaïe, merci. Voilà. Qui enverrai-je ? Alors moi, j'ai la réponse. Hein. Ben vous, qui d'autre ? Enfin, moi aussi, nous. Voilà. C'est nous qui l'envoie. Personne d'autre. Alors il y a des pros, il y a des spécialistes, il y a des gens plus à l'aise. Mais c'est chacun de nous. Hein. Chacun de nous, on a un voisin. Chacun de nous, on a un ami. Chacun de nous. Chacun de nous. J'ai lu cette histoire. En octobre 1857, j'ai trouvé ça pas mal, Hudson Taylor, il commence son ministère en Chine, vous savez. Bon, pour ceux qui le connaissent, c'est un missionnaire en Chine qui a eu un gros impact. Et il amène un homme au Seigneur, Monsieur Ni. Je ne suis pas très bon en chinois, mais bon. Bref, alors cet homme, il est heureux, il est dit au comble de sa joie, il voulait partager l'évangile avec tout le monde. Et puis, il demande à Hudson Taylor, « Mais depuis quand vous connaissez cette bonne nouvelle en Angleterre ?» Et Hudson Taylor lui répond, bah, « Depuis plusieurs siècles. » Et cet homme, il est surpris. Et il dit, « Mon père est mort en cherchant la vérité. Pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ?» Mais il a été incapable de répondre à cette question. Donc voilà. Je crois que c'est une bonne illustration de ce qu'on peut, ce que le Seigneur nous demande de vivre. Hein ? Depuis combien de temps on connaît l'Évangile ? Hein ? Et combien de fois on l'a partagé personnellement, cet Évangile ? C'est une vraie question. Ou depuis combien de temps on n'a pas pu, on n'a pas osé, hein, dire « je suis chrétien, hein ». Dieu vous aime. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. On peut tous le dire. Vivre avec le Seigneur, c'est une aventure extraordinaire, mais réellement extraordinaire. Ce n'est pas un fantasme, c'est une vraie aventure. Hein. C'est une aventure qui veut toute notre vie. C'est une aventure où la routine est exclue, totalement. Et vous allez voir, et c'est marrant, parce que d'abord, Fred en a parlé au début, mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai écrit cette phrase, il s'est passé un truc, ma femme m'a dit, va ramener un échantillon que j'ai pris dans une boutique. Moi, j'ai obéi, hein. Donc, je n'avais pas envie d'y aller, évidemment, parce que nous, les hommes, je vous le dis, pour vous, les femmes, c'est la honte totale. Ramener un truc, je sais que je ne vais pas acheter, moi, je suis super mal à l'aise. Donc, je n'avais pas envie d'y aller. Mais j'y vais, j'arrête le message et j'y vais. Donc, et là, devant ce magasin, il y avait une camionnette blanche. C'était trop marrant. Et il était écrit, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Ça m'a fait un choc, quoi. Ouais. Ça m'a vraiment fait un choc. J'ai trouvé la phrase géniale, mais je me suis dit, pétard. Seigneur m'envoie dans ce magasin, il fallait que je voie ça, sur une camionnette. Et quand je suis sorti du magasin, elle n'y était plus, la camionnette. Donc c'est pour chacun de nous. Voilà. L'aventure est dangereuse, mais essayez la routine, vous verrez. C'est mortel. Voilà. Alors, ne tombons pas dans la routine. N'acceptons pas la routine comme chrétien. N'acceptons pas la routine comme chrétien. C'est un piège de l'ennemi. Arrêtons de dire « j'en ai marre, je suis fatigué, toujours pareil ». Non, on a des belles choses à vivre, chacun. On a des belles choses à vivre individuellement, on a des belles choses à vivre collectivement, comme Église aussi. Hein ? Si vous êtes fatigué, relisez les actes. Ça arrive d'être fatigué, hein ? C'est pas un problème. Hein ? C'est le livre des actions depuis 2000 ans. C'est comme le fil qui nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Hein ? Ça nous raconte des actions d'hommes, de femmes, qui ont témoigné de leur foi. Hein ? Elles ont témoigné de leur joie. Elles ont témoigné par leur communion, de leur vie, leur partage. En acte 1, verset, je sais pas quoi, il y a un verset très, très, très sympa qui dit que les chrétiens se réunissaient au portique de la porte de Salomon. Et il est dit, et la foule les tenait en haute estime. C'est beau. Notre Église, nous-mêmes individuellement, alors, on ne va pas se dire, oh là là, c'est notre but qu'on nous tienne en haute estime. Non, c'est un fruit d'être tenu en haute estime. Et on est participant. Certainement qu'il y a plein de gens qui vous tiennent en haute estime et que vous l'ignorez. Et s'ils vous tiennent en haute estime, c'est parce que vous avez la lumière de Jésus-Christ en vous, tout simplement. Donc, vous avez la clé. On a la clé. Voilà. Hein ? Voilà, soyez bénis. Et moi, je vous invite, si vous voulez, je vais demander à la louange de revenir. Parce qu'on a dit de prier, on dit que... Ben moi, on va prier. Mais je vous invite à ceux qui veulent s'approcher, ceux qui ne veulent pas s'approcher, levez-vous, priez pour votre frère, pour votre sœur, ceux qui veulent... Parce que je n'ai pas voulu développer aussi le passage, mais Jean, Pierre et Jean, ils viennent, et puis pour le Saint-Esprit, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On peut être renouvelé dans le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas des fantasmes, c'est des choses simples, banales. Voilà. Donc moi, je vous invite, les frères et sœurs, les responsables, à vous approcher. Et je vous invite tous, ceux qui veulent en tout cas, à venir pour être baptisés à nouveau du Saint-Esprit, pour être renouvelés dans le Saint-Esprit, pour arrêter de sortir de la routine, de vraiment voir la bonne nouvelle que chacun peut annoncer. D'accord ? Ça vous branche, hein ? Non, mais il faut que ça vous branche, les gars, il faut le faire. Voilà. On va pas rester comme ça. Donc je vous invite tous à venir... Et une sainte pagaille, comme dirait Jean-Louis. Si, si, si. C'était ses paroles, mais il y a longtemps.